avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui explorent les nouveaux visages du capitalisme. Tout d'abord, Les marchandises émotionnelles, un ouvrage collectif initié et dirigé par la sociologue Eva Illouz, publié aux éditions Premier Parallèle pour une exploration des liens entre consommation et émotion. Comment les émotions sont-elles devenues des marchandises? C'est la question à laquelle tente de répondre cette série d'articles. Le second essai dont nous discuterons ce soir explore un tout autre aspect du capitalisme, signé de l'essayiste canadienne Naomi Klein, Le choc des utopies est publié chez Lux. La journaliste s'appuie sur un reportage qu'elle a fait à Porto Rico après le passage de l'ouragan Maria pour illustrer ce qu'elle a appelé la stratégie du choc ou comment les désastres naturels deviennent le champ d'affrontement de deux visions du monde. Studio pour débattre des journalistes qui représentent eux aussi des journaux qui portent deux visions du monde. Eugénie Bastille du Figaro, bonsoir Eugénie.
Bonsoir.
Et Laurent Hêtre de l'Humanité, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre dirigé par Eva Illouz, Les marchandises émotionnelles, traduit de l'anglais par Frédéric Joly. La sociologue franco-israélienne travaille depuis plusieurs années sur ce qu'elle appelle le capitalisme affectif et ses effets sur la psyché. Elle a d'ailleurs signé en août dernier avec Edgar Cabana, qui participe aussi au livre, chez le même éditeur Premier Parallèle, Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Un essai qui a eu pas mal de succès à la rentrée et qui se penchait sur l'injonction au bonheur devenue une science qui fait des émotions une marchandise comme les autres. C'est la même idée qu'on retrouve ici, mais présentée de façon à la fois plus variée et plus détaillée à travers les articles de différents étudiants qui ont pu travailler au cours des années avec Eva Illouz. Pour des études de cas qui vont du Club Med au film d'horreur, en passant par la musique, la quête d'authenticité ou la psychothérapie, l'un des objectifs du livre, c'est d'établir une typologie de ces marchandises émotionnelles, les émodities, comme elles sont appelées dans le livre, un joli néologisme. L'ouvrage met en évidence la dynamique historique d'un capitalisme qui a évolué, passant du marketing des objets, qu'on achète autant pour ce qu'ils font que pour ce qu'ils sont et disent de nous, à la transformation des émotions elles-mêmes en marchandises. Eugénie Bastier, le livre s'inscrit dans une perspective de pensée critique et s'ouvre sur un texte du philosophe allemand Axel Honneth qui termine sa préface en se demandant si à la lecture des marchandises émotionnelles, on ne serait pas convaincu de vivre, je cite, dans le monde lugubre de Michel Houellebecq.
Oui, c'est un livre que j'ai trouvé très très intéressant et très stimulant et qui s'inscrit dans une dynamique éditoriale assez profonde puisqu'il y a beaucoup de livres qui sortent sur ce sujet, sur la critique des marchands de bonheur. Bien sûr, il y a eu Apicratie, mais il y a aussi un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'obsession du bien-être de Benoît Heilbrunn, un philosophe aussi, qui dénonce cette espèce de ces marchands de bonheur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se limite pas justement à la seule marchandise du bonheur à travers le self-help, le coaching, etc., qui fait une partie du livre, mais elle étend son analyse à d'autres émotions et elle analyse comment la manière dont finalement la sphère de la consommation non seulement marchandise nos émotions, mais les standardise et les fabrique carrément, ces fameuses émodities. Et elle revient finalement sur un paradoxe du capitalisme contemporain. On se souvient que Daniel Bell avait fait un livre sur les contradictions culturelles du capitalisme, en disant qu'il y avait une contradiction entre l'hédonisme dont avait besoin le capitalisme et l'éthique protestante, l'éthique du travail, qui est au centre du capitalisme. Et bien, elle revient un peu sur ce paradoxe aussi, puisque elle montre finalement que le capitalisme à la fois rationalise notre existence et en même temps émotionnalise notre existence et standardise nos émotions. Et c'est ce mélange entre une extrême rationalité et un culte de l'émotion qui est le paradoxe de ce capitalisme contemporain. Et finalement, ce que nous aide à la problématique finale de ce livre et ce qu'on lit en filigrane, c'est finalement, qu'est-ce que sont des émotions authentiques à l'ère du capitalisme mondialisé? Est-ce que il peut encore exister des expériences émotionnelles, des sentiments qui soient authentiques? Qu'est-ce que c'est que l'authenticité? Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment authentique qui n'est pas fabriqué par la sphère marchande? Est-ce que, par exemple, le délassement, les vacances ou le repos, etc., peuvent être des moments authentiques qui ne sont pas contaminés par la sphère marchande? C'est tout l'enjeu. Ce qu'on lit en filigrane, c'est comment distinguer. Est-ce qu'il est encore possible d'ailleurs de distinguer des sentiments authentiques, des sentiments fabriqués par la par la consommation.
Oui, c'est la conclusion que tire Eva Illouz de ce livre et qui propose d'ailleurs une forme de solution, mais on y reviendra évidemment un peu plus tard, enfin une solution, en tout cas une approche critique, plus qu'une solution. Je vous vois tiquer, Laurent Hed, quand j'ai dit solution, vous avez raison, c'est moins ça qu'une approche critique, puisqu'elle se place dans une perspective, d'ailleurs en proposant à Axel Honneth, donc qui est ce philosophe allemand, philosophe critique allemand très important aujourd'hui, en lui proposant de faire la préface, elle montre bien qu'elle est dans cette perspective intellectuelle.
Oui, effectivement. Mais alors, vous disiez donc une solution ou une critique. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Et sur la question de l'authenticité, elle renonce finalement dans son texte de conclusion à non pas à défendre l'authenticité, mais elle estime que nos mondes vécus, nos subjectivités, ont été colonisés à un tel point par le marché que finalement il est vain d'essayer aujourd'hui de chercher à sauver une quelconque authenticité à partir de laquelle on pourrait impulser effectivement des logiques de résistance à ce système. Et donc elle invite à en quelque sorte rabattre la sociologie sur ce qu'elle appelle une critique post-normative, c'est-à-dire qu'en fait pour elle la sociologie doit en quelque sorte se contenter de décrire de la façon la plus complète, la plus étayée possible les contradictions de la société néolibérale et en fait elle doit renoncer à proposer des normes sociales alternatives. Et c'est ça peut-être qui manque un peu peut-être dans cette approche du capitalisme émotionnel, c'est-à-dire que les marchandises émotionnelles finalement, quand on voit l'ensemble des exemples traités dans cet ouvrage collectif, c'est pas quelque chose de vraiment neuf, c'est quelque chose qui remonte au moins au début du XXe siècle. Les exemples qui sont pris, par exemple le programme expérimental de Thomas Edison en 1921 qui classe les différents types de musique en fonction des émotions suscitées. D'autres exemples sont pris aussi du côté de l'industrie du tourisme, avec le Club Med. Voilà, donc il y a tout un ensemble de secteurs où on voit effectivement des marchandises qui sont d'emblée conçues, pensées, pour susciter tel ou tel type d'émotion, à tel point effectivement que au final ce sont ces affects qui deviennent marchandises en quelque sorte. Mais ce qui est vraiment inédit dans la démarche d'Eva Illouz et de son équipe, c'est la place qu'elle donne à ces marchandises émotionnelles dans la compréhension de la logique même du capitalisme. Et là en fait elle rapproche sa réflexion de celle de par exemple de Hart et Negri, hein, qui dès la fin des années 90 parlait du capitalisme affectif et pointait l'émergence de formes de travail faisant appel à la subjectivité des travailleurs beaucoup plus qu'auparavant et faisant appel à leurs émotions. Elle pointe aussi, elle se place dans les pas de Jean Baudrillard, le grand penseur de la société de consommation, et de quelqu'un de peut-être un peu moins connu, Anne Freidberg, pour parler de l'économie de l'expérience, qui est en quelque sorte l'arrière-fond de la circulation de ces marchandises émotionnelles. Et dans cette économie de l'expérience, elle pointe le brouillage de la frontière entre producteur et consommateur. Mais là où je vais être juste quand même un peu critique pour finir, c'est sur la notion de valeur. C'est-à-dire que la plupart des contributions nous parlent finalement de la valeur de ces marchandises émotionnelles, mais on ne sait pas si c'est véritablement une valeur d'échange, une valeur d'usage. On a l'impression que c'est une valeur d'usage qui du coup devient très très intime. Voilà, il y a un flottement quand même sur ce truc-là, et ça vient du fait que de la même façon d'ailleurs que Hart et Negri avec leur capitalisme affectif. Finalement, il y a cette idée que aujourd'hui, la valeur d'une marchandise ne vient plus tant du temps de travail nécessaire pour la produire. Finalement, elle proviendrait directement des affects, des sujets. Donc finalement, la valeur serait créée un peu partout dans la société. Et ça, je pense que c'est un point qui n'est pas suffisamment étayé dans cet ouvrage.
Alors on a un peu commencé par la fin. Hein. D'abord, en se penchant sur la question de l'authenticité, en allant directement à la conclusion sur cette critique post-normative proposée par Eva Illouz, qui interroge sur la vérité émotionnelle. Elle fait cette distinction. Est-ce que la vérité émotionnelle aujourd'hui, c'est celle de Roland Barthes parlant de la littérature ou celle d'Oprah Winfrey, hein, cette fameuse présentatrice américaine qui s'interroge voilà sur ces livres qui produisent des émotions. On va rembobiner un petit peu le fil, si vous voulez bien, de la réflexion et revenir finalement à cette distinction initiale qui est portée par Eva Illouz et son équipe, comme vous l'avez dit, Laurent Hêtre, et qui est une distinction qui est assez ténue, qui est pas facile à envisager, en tout cas moi qui me résiste un petit peu, je dois le dire, entre une façon de manipuler les émotions, c'est quelque chose qu'on connaît bien, voilà, par la publicité, manipuler les émotions pour la consommation, pour pousser les consommateurs à en être, à toujours acheter plus, à les pousser vers les objets, les faire désirer des objets, et la transformation finalement des émotions elles-mêmes en marchandises, pousser les sujets, les acteurs du système à faire de leurs émotions une marchandise. Et donc c'est à travers des exemples, hein, je l'ai dit, le Club Méditerranée pour les vacances, les musiques qu'on écoute, vous avez fait référence Laurent Hêtre avec Edison, c'est tout un article sur la musique, comment la musique produit des émotions, comment on utilise ça aujourd'hui. Bref, il y a cette bascule qui est pas évidente, Eugénie Bastier, à envisager.
Oui, le livre est divisé en trois parties, qui sont les trois idéaux des émoditises. Le premier idéal, c'est celui de l'authenticité, comment finalement on nous vend des émotions qui seraient pures, authentiques, ce qui libérerait finalement le vrai moi des contraintes sociales, des conventions, etc. Le deuxième idéal, c'est celui de l'intimité, comment on nous vend une espèce de proximité. Alors ça, c'est illustré par notamment le phénomène de la carte de vœux. Et le troisième idéal, c'est l'idéal du contrôle de soi et de l'amélioration de sa santé mentale, comment le marché s'est emparé notamment d'une branche de la psychologie en essayant de nous vendre finalement une amélioration de notre propre santé mentale en se contrôlant mieux, etc. etc. Donc ça, c'est toutes les entreprises de coaching, de self-help, tous ces livres qui marchent très très bien. Moi, les exemples que j'ai trouvé le plus parlant dans cette fabrication de l'émoditise, c'est à la fois l'exemple du Club Med et celui du film d'horreur. Parce qu'il est vrai que là, on a affaire à vraiment des processus de fabrication de A à Z d'un sentiment, d'une émotion. Dans le cas du Club Med, c'est le délassement, ce qu'ils appellent le bonheur. Le slogan du Club Med est ce titre parlant, fabricant de bonheur depuis 1957. L'idée qu'on va fabriquer un bonheur tout compris sous forme de finalement d'un packaging de délassement qui doit être une espèce de en miroir l'antithèse de la vie quotidienne, c'est-à-dire il nous faut pouvoir quand on va dans un Club Med, on est dans un endroit clos, on doit s'occuper de rien, des choses banales, par exemple faire la cuisine, faire le ménage, etc. On est pris en charge de A à Z, on n'a plus aucun souci, et donc on nous met dans une espèce de vase clos comme ça pour produire une émotion qui n'existe pas en réalité dans la vie réelle. Idem pour le film d'horreur qui est packagé pour créer un sentiment, une émotion qui est extrêmement rare dans la vie quotidienne, à savoir le sentiment d'horreur. Et d'ailleurs, à la fois, je trouvais cet exemple très parlant et en même temps, je trouve qu'il manquait une analyse. Et là, on voit d'ailleurs son rejet un peu de la psychologie au profit de la sociologie. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé qu'elle nous explique pourquoi les gens vont voir des films d'horreur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils recherchent quand on, parce qu'on le voit pour le Club Med, évidemment, quand on va au Club Med, c'est pour rompre avec une vie d'entreprise qui est extrêmement aliénante. Mais pourquoi les gens aujourd'hui se sentent obligés d'aller voir des films d'horreur? Là, on n'a pas d'explication. On nous décrit très bien la fabrication du sentiment d'horreur. Mais pourquoi, dans nos démocraties apaisées, occidentales, etc., le film d'horreur a autant de succès? J'aurais bien aimé, justement, qu'il y ait une analyse un peu plus psychologique et un peu moins sociologique, pour le coup, sur ce sujet.
Et alors, citons les auteurs de ces deux articles que vous citez, justement, Eugénie Bastier. Sur le Club Med, c'est Yara Benger-Alalouf. Et sur les films d'horreur, Daniel Gillon ou Gillon, qui sont donc deux auteurs qui nous, comment dire, Laurette, qui nous plonge dans ces objets de consommation presque quotidiens, que sont, enfin, pour ceux qui peuvent, les vacances et les films, que ce soit d'horreur ou d'autres genres, puisqu'à la fin, il termine l'article en disant, voilà, on peut dire la même chose à peu près des films policiers, des films, des comédies romantiques, etc. Et qui prennent ces objets, justement pour illustrer cette bascule de voilà, on pourrait penser que ces industries-là manipulent les émotions pour nous pousser à les consommer, et en fait ce que veut dire ce livre à travers l'exemple des émoditises, à travers ce concept des émoditises, c'est que ça va plus loin que ça, c'est un cran au-dessus en quelque sorte.
Oui, mais alors justement, moi, ces exemples du film d'horreur et du Club Med, je les ai trouvés assez banals dans l'ouvrage. Moi, ce qui a plutôt retenu mon attention...
C'est bien comme ça, il y a un peu de débat, vraiment, parce que je vous trouvais étrangement d'accord sur le constat.
Écoutez, moi, c'est vraiment la troisième partie qui me paraît la plus probante par rapport à la question du capitalisme émotionnel. Pourquoi? Parce que,
donc, celle
en fait,
sur, l'autocontrôle
émotionnel, sur l'industrie du bonheur, auquel effectivement...
C'était moins nouveau parce que c'était dans l'apicratie. En fait.
Oui, tout à fait. Voilà, elle reprend un peu des analyses. Et d'ailleurs, l'un des contributeurs, Edgar Cabanas... Exactement. Mais néanmoins, pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet, parce que c'est là qu'on voit vraiment toute la nocivité de ce système capitaliste émotionnel, c'est-à-dire qu'en nous vendant finalement la connaissance de soi-même, la découverte de soi, le contrôle de ses émotions, en nous vendant ça comme un peu le nec plus ultra, finalement, ce sont des perspectives illimitées, c'est-à-dire la découverte de soi, elle est jamais finie, potentiellement elle est infinie. Et donc de cette façon, le capitalisme émotionnel s'est créé des gisements de profit également infinis. Donc c'est là qu'on voit vraiment la spécificité, parce que sur les questions des films d'horreur, le film d'horreur, oui, effectivement, il explique comment les films sont conçus en fonction du besoin de susciter telle et telle émotion. Et parfois, certaines scènes sont revues pour finalement atteindre tel public en fonction des catégories d'âge, etc. Mais bon, ça, c'est assez banal, je trouve. Et également sur tout ce qui touche à l'industrie du disque, hein, que j'évoquais tout à l'heure, les fameuses compilations musicales à partir des années 50. Tout ça, effectivement, est connu. De la même façon, on pourrait parler aussi des musiques d'ambiance dans les magasins pour accompagner la consommation. Donc tout ça n'est pas bien neuf, je trouve. Mais effectivement, moi, ce que je retiens, c'est tout ce qui ressort aussi de cette continuité avec l'ouvrage précédent, Apicratie. Mais c'est là que ça devient justement intéressant. C'est que sur cette industrie du bonheur, il y a quand même un axe de lutte qui se dessine en filigrane et qui apparaît notamment dans la contribution d'Edgar Cabanas. Parce que Edgar Cabanas montre bien comment finalement cette industrie qui brasse aujourd'hui des milliards en utilisant en quelque sorte la souffrance des individus qui sont en désarroi dans les sociétés néolibérales, qui sont des sociétés de plus en plus dures, de compétition, de concurrence, il montre bien que toute cette industrie du bonheur, du coaching, des psychothérapies, s'est développée en même temps que la société néolibérale cassée. Les droits sociaux, les protections collectives. Et donc il invite, à la fin de son texte, il invite à revenir finalement à la critique sociale, à déplacer la critique de l'idéologie dominante du bonheur et de la faire reporter sur la critique des contradictions de la société. Je termine sur ça. Et ça, effectivement, il a tout à fait raison, mais je me demande dans quelle mesure il ne faut pas aussi faire tout un travail pour revaloriser la capacité du collectif à transformer la société, et y compris montrer que le collectif, les stratégies collectives sont plus efficientes également du point de vue du bonheur individuel.
Oui, c'est présent presque oui. En négatif hein, dans voilà, le livre, puisque finalement, en insistant sur l'individu, on évacue le collectif. Vous vouliez répondre,
Julie Bastier. Oui, mais moi, je crois, et c'est là où j'aurais une critique à faire sur notamment toute cette partie sur le bonheur, parce que évidemment le capitalisme s'est emparé de la question du bonheur et l'a marchandisé, mais la question du bonheur, elle est aussi intimement liée à la démocratie, et je crois que la critique de Tocqueville peut être intéressante aussi et peut déplacer notre regard que nous avons sur ce sujet, parce que dit Tocqueville de la démocratie en Amérique? Il arrive dans son voyage en Amérique et il voit justement cette passion du confort, du bien-être, du bonheur individuel. Il la lie non pas au marché, mais à la démocratie, à la mentalité démocratique. Et donc, on peut pas, je trouve, se passer d'une critique de la démocratie, d'une critique de la mentalité démocratique et de l'égalitarisme des conditions, de l'appétence pour le confort plutôt que pour le sacrifice, etc. Et donc, on peut pas limiter, je pense, juste ce culte de l'émotion de nos démocraties occidentales simplement liées à la question du capitalisme, mais elles sont aussi liées à la question de la démocratie. Et de la mentalité démocratique. C'est ça aussi qui nous fait cultiver le bien-être personnel, le culte de les émotions. Et d'ailleurs, je voudrais faire référence à un livre aussi très intéressant sur ce sujet, La stratégie de l'émotion, de Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique, qui a écrit un petit essai.
Comme quoi tout arrive.
Oui, un petit essai sur l'invasion des émotions, qui est préfacé par Dupont-Moretti, l'avocat, sur l'invasion des émotions dans l'espace social et politique, et l'omniprésence notamment des émotions dans les médias, dans la politique même. C'est-à-dire que le vocabulaire politique est aujourd'hui imprégné par l'émotion. On parle de la peur, qu'on parle de la compassion, qu'on parle de la pitié, etc. Et donc ce règne de l'émotion, il n'est pas seulement dans le marché, il est aussi dans la politique, et il a pour ressort principal aussi l'extension de cette mentalité démocratique qui nous fait voir l'autre comme un semblable, et donc cultiver une forme d'empathie généralisée et donc un culte de l'émotion. Et donc je pense qu'on ne peut pas limiter cette critique ne faire de l'invasion de l'émotion comme seul responsable le marché. Il y a aussi la démocratie, et démocratie et marché se tiennent la main sur ce sujet.
Alors justement, il y a malgré tout une volonté hein, d'Eva Illouz et de son équipe et des contributeurs de ce livre, Les marchandises émotionnelles, donc aux éditions Premier Parallèle, de dépasser l'approche purement culturaliste telle qu'on semble la dessiner là, ou l'approche économique, en disant bien hein, que les émotions existent de façon empirique au sein de réseaux d'organisations, d'objets, d'images et de discours. C'est-à-dire que c'est aussi presque une sémiotique de l'émotion, l'émotion comme signe et comme marchandise, encore une fois, qui est ici analysée, Laurent Hêtre.
Écoutez, moi en tout cas, je ne vois pas trop le rapport entre la démocratie et le capitalisme de l'émotion. Par contre, effectivement, je trouve, et ça manque aussi dans cet ouvrage, effectivement, il manque une réflexion sur l'émotion en politique. Mais en politique, il me semble que ce sont plutôt les forces antidémocratiques qui jouent à fond le registre de l'émotion, du ressentiment. Ce sont tous les discours nationalistes, xénophobes, identitaires, qu'ils soient d'ailleurs portés...
Excusez-moi, le discours sur la compassion envers les migrants,
je ne vous ai pas coupé, je termine. Qu'ils soient portés, ces discours de haine, qu'ils soient portés par des minorités ou des groupes se présentant comme majoritaires. Ce sont des discours d'émotion et je pense qu'il ne faudrait pas faire écran sur cette réalité. C'est important de le montrer parce que il peut y avoir parfois l'illusion dans nos démocraties médiatiques que de tels discours qui invoquent volontiers la tradition, les ancêtres, la culture locale, la terre, etc., que ces discours sont en opposition avec le cours du monde, avec le cours de ce capitalisme de l'émotionnel. Or, je crois, et je pense que Eva Illouz et ses co-auteurs seraient tout à fait d'accord, ils en sont au contraire le prolongement.
Eh ben, réponse de Ginny Bastion, on arrive au débat.
Non, mais je crois tout à fait le contraire. Je crois que la seule manière justement de... Enfin, évidemment... Je ne défends pas ces discours de haine ou de peur, mais je pense que la seule manière de faire barrage à cette marchandisation et cette standardisation de l'émotion par le capitalisme, c'est évidemment de retrouver, pour moi, la tradition, les coutumes et les communautés traditionnelles qui sont à même de faire barrage à ces émotions fabriquées, c'est-à-dire que les sentiments et les émotions transmis. Traditionnels sont le seul barrage à l'émotion fabriquée par le capital.
Je précise simplement sur la question des traditions. Je ne suis pas, je ne voulais pas critiquer toute forme de tradition, mais simplement, et on le verra sans doute en parlant de l'ouvrage de Naomi Klein, parce qu'elle y fait également référence sur le cas de Porto Rico. On peut tout à fait s'appuyer sur des cultures locales, sur des valeurs, des coutumes, etc., à condition que ce soit d'emblée posé dans un horizon politique qui est l'intérêt général, la souveraineté populaire, donc la démocratie, et finalement l'universel, l'universalisme républicain, l'ouverture à autrui.
Ou alors, plutôt que d'aller au Club Med, on va dans une maison de famille à la campagne, et ça, c'est déjà une manière de résister. Oui, ou on va dans un endroit familial pour résister justement au tourisme mondialisé. Par exemple, ça peut être une alternative qui est pas forcément politique, mais qui s'inscrit dans une communauté.
Juste pour terminer, puisque vous l'avez dit, la politique est un peu exclue, en tout cas directement, et même si indirectement, on a vu que c'est un livre très politique, ce livre dirigé par Eva Illouz. Il y a autre chose qui est exclue, ce sont les réseaux sociaux. Or, quand on parle manipulation des émotions, quand on parle marchandisation de la société, alors il s'en explique dès le début, c'est pas du tout un oubli, c'est une volonté, parce que je pense que ça ouvrirait un continent. Le livre est déjà hypé, il doit faire 400 pages, il en ferait 2000 s'il avait fallu aborder cette question des réseaux sociaux, mais malgré tout j'aurais aimé vous entendre là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez le sentiment d'abord que ça manque, même pas un seul article sur cette question-là, et ensuite que cette démarche, cette idée des marchandises émotionnelles, elle s'applique bien, selon vous, à cet exemple des réseaux sociaux, Ginny Bastien?
Oui, pour le coup, je pense que l'illustration même de la marchandise émotionnelle, c'est le pouce bleu de Facebook, c'est-à-dire l'idée d'une standardisation des émotions à travers le clic qui nous fait voilà. Et d'ailleurs, récemment, Facebook a transformé son pouce bleu en différents smileys. Donc vous avez la colère, l'approbation, le rire, etc. Et donc là, on est vraiment dans la fabrication d'une émotion standardisée. C'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas eu cet exemple, alors que on s'attarde beaucoup, je trouve, sur l'exemple de la carte de vœux, qui me semble assez obsolète aujourd'hui, étant donné que, et ils le disent d'ailleurs, mais c'est un exemple qui est un peu daté, puisque la carte de vœux est aujourd'hui très peu utilisée.
Oui, vous ne m'en avez pas envoyé cette
voilà,
année,
exactement.
Par exemple.
Et je pense que la carte de vœux, c'est déjà l'ancien monde par rapport aux réseaux sociaux.
Laurent Hêtre ?
Moi, je dirais qu'effectivement, il y a un travers dans les réseaux sociaux qui aurait pu trouver sa place, effectivement, dans cette réflexion collective. Le travers, c'est que ce sont potentiellement des communautés qui se créent, effectivement, autour du like, autour donc de l'émotion, et également, je dirais, sur un mode un peu identitaire, qui est pas forcément, c'est pas forcément son expression la plus dangereuse pour le coup, mais c'est quand même comme ça que procèdent ces réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est amené, on est conduit à liker, non pas forcément au terme d'une réflexion, d'un débat argumenté, d'un débat démocratique, on est amené à liker parce que on connaît, parce qu'on se reconnaît, et donc on est dans quelque chose qui, effectivement, potentiellement, parce que ça peut être aussi un formidable atout de renforcement, d'intensification de la démocratie, on sait très bien qu'effectivement les réseaux sociaux peuvent également en saper les bases.
Et qui amène justement chaque individu à être le propre entrepreneur de ses émotions, c'est l'une des idées développées dans ce livre, Les marchandises émotionnelles, c'est même l'idée centrale de ce livre, Les marchandises émotionnelles, publié aux éditions Premier Parallèle.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourbois.
We fall in love, he does the most, but I question it all, cause I'm still broken, he gets tired, then he leaves, then I cry, then I repeat. Fall in love again, fuck it up again, it's just the effect I got. Better being friends to avoid the pain, I say I'm okay, I'm not. It's always the same, it's like I'm looking for someone to save me, someone to blame, so I can cry and ask you why'd you break me. And like I said, I didn't come back in.
Do the most, you question it all, cause you're still broken. I give you space, let you breathe, flip it on me, then it repeats. I messed it up again, pissed you off again, give you love, that's what I got. Cuss me out again, acting out again, think it's okay, well it's not. Some ways to say, it's like I'm looking for someone to save me, someone to blame, so I can cry and ask you why you break me. And now you say I didn't come broken. And now you say you did. And now you say I didn't come broken. And now you say I didn't come broken. And now you say you did. And now you say I didn't come broken.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Naomi Klein, Le choc des utopies, Porto Rico contre les capitalistes du désastre. La journaliste et essayiste canadienne est partie pour le journal américain de gauche The Intercept à Porto Rico, juste après le passage de l'ouragan Maria, c'était en 2017, on se souvient des images de dévastation, tout comme celle d'un Donald Trump complètement déconnecté qui balance hilar des rouleaux de papier essuie-tout à une population au désespoir. L'auteur de la stratégie du choc y trouve un nouvel exemple de sa théorie développée en 2008 et qui montrait comment un capitalisme du désastre avait vu le jour ces dernières années. À travers une série d'exemples, elle montrait ainsi comment les logiques de prédation, d'accaparement des terres, de privatisation des services publics profitaient des situations de crise. Porto Rico offre à ce titre un idéal type, une vision extrême de sa théorie, car ce protectorat, où les habitants sont citoyens américains mais ne peuvent voter, est un espace d'expérimentation depuis longtemps, expérimentation néolibérale, agricole ou financière, on y reviendra. Le choc des utopies, c'est selon Naomi Klein l'affrontement de deux logiques pour la reconstruction de Porto Rico, celle d'une classe d'ultra-riches qui profite de ce paradis fiscale des Caraïbes et celle d'une population qui y voit une possibilité d'émancipation et d'expérimentation sociale et écologique. Laurent Hêtre, c'est un texte là aussi dont il faut lire la préface par la journaliste de Mediapart Jeanine Garde, spécialiste des questions environnementales. Pour elle, ce livre a le mérite de rappeler l'importance de la justice climatique, c'est-à-dire du lien évidemment entre environnement et questions sociales.
Oui, alors effectivement, elle fait référence hein, dans cette préface, notamment aux travaux de Raphaël Stevens, hein, qu'on avait eu l'occasion ici même d'évoquer sur la notion d'effondrement à l'aune du péril climatique. Mais dans cet ouvrage de Naomi Klein, justement, on voit à quel point tout ce qui touche à la justice climatique, tout ce qui touche concrètement aux énergies renouvelables, peut avoir un intérêt carrément vital. Ça n'est pas une affaire de bonne conscience écologique comme on peut l'entendre parfois ici ou là. En l'occurrence, Naomi Klein, donc à Porto Rico, donc suite au passage de l'ouragan Maria qui a dévasté l'île, elle montre dans ce livre, qui est plutôt un reportage d'ailleurs qu'un essai en tant que tel, elle montre comment, justement sur la question des énergies, le fait d'avoir un peu de diversité et d'avoir dans certains endroits de l'archipel des lieux avec de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire, ça a permis notamment de sauver des vies, parce que certains malades cardiaques qui avaient des appareils respiratoires à maintenir sous tension se sont trouvés en difficulté à ce moment-là. Et donc le fait de ne pas être totalement dépendant de l'extérieur pour l'approvisionnement, parce que effectivement Naomi Klein l'explique, aujourd'hui l'un des problèmes de Porto Rico, c'est bien ça, c'est d'être totalement dépendant des combustibles fossiles et de devoir les importer. Et c'est une dépendance énergétique qui est organisée, qui participe d'une mise sous tutelle de ce protectorat américain.
Oui, 98% de l'électricité d'origine fossile est donc importée, puisque l'île ne produit pas de matière fossile, enfin de pétrole ou de gaz ou autre forme, et 85% de la nourriture est importée aussi, alors que l'île a évidemment une industrie agroalimentaire, j'allais dire, en tout cas, produit de l'agriculture. Eugénie Bastier, juste un mot sur, on va dire, cette situation de Porto Rico qui est décrite par Naomi Klein, qui lui sert en définitive d'illustration à sa théorie de la stratégie du choc.
Oui, moi j'ai trouvé ça très très intéressant comme confrontation, et c'est vrai qu'elle a trouvé un exemple qui est archétypal, même si parfois ça tourne un peu au manichéisme, notamment dans la préface de Jade Lingard, où elle parle de ce choc des utopies, celui qui oppose celles et ceux qui œuvrent à la destruction du monde à celles et ceux qui luttent pour le rendre plus vivable, plus juste et plus partagé. Elle parle de ces financiers déterritorialisés attirés par l'odeur du sang et du profit. Bon, c'est un peu caricatural, je trouve, comme si finalement il y aurait d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. C'est un peu simple, parce que on voit bien justement que c'est une confrontation d'utopie et de vision du monde, et qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui ne pensent qu'au profit et ceux qui veulent se sauver eux-mêmes. Il y a une confrontation d'idéaux, et évidemment il y en a un qui me paraît plus juste que l'autre, mais j'aurais bien aimé justement que Naomi Klein s'attache à plus nous décrire et prendre au sérieux l'utopie, notamment de la portopie, cette idée que cette idée que certains libertariens portent sur l'île, notamment les adeptes de crypto-monnaie, de blockchain, qui veulent faire de Porto Rico une sorte de paradis fiscal pour
Un paradis fiscal.
C'est déjà un paradis fiscal, mais qui veulent une forme d'endroit où les investissements pourraient être considérables, notamment en rapport à la blockchain et aux crypto-monnaies, et notamment ils sont influencés par la philosophie d'Ayn Rand, cette philosophe américaine théoricienne du libertarisme, qui dans un de ses livres, La Grève, qui est un livre, un roman qui est très très lu aux États-Unis, imagine justement un monde où les esprits les plus brillants de la société se retirent finalement dans une vallée et créent leur propre monde en dehors de l'État, en dehors de toute collectivité, pour pouvoir justement dans une espèce d'utopie libertarienne. Et c'est un univers qui influence beaucoup toute une partie de la Silicon Valley et des libertariens, et certains trouvent dans Porto Rico un lieu qui pourrait servir de lieu de laboratoire à cette utopie. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble évidemment que cette utopie est effrayante, mais on peut pas être manichéen, il faut essayer de comprendre, je pense, quels sont les tenants et les aboutissants philosophiques de cet idéal, en fait.
Oui, c'est vrai, Laurent Hedt, que Naomi Klein, évidemment, se retrouve plus facilement du côté des populations locales qui vont chercher des nouvelles formes d'organisation sociale, d'agriculture écologique, que du côté des financiers qui profitent d'une situation économique et fiscale très, très avantageuse voulue par les autorités de Porto Rico, sous la pression des États-Unis, selon Naomi Klein, et qui, évidemment, font de Porto Rico une espèce de paradis, de lieu où ils pourraient développer, je crois que le taux d'imposition est de l'ordre de 6%. 5%, elle disait, voilà, ils peuvent développer leurs entreprises.
Oui, mais justement, c'est pas une question de manichéisme, c'est pas une question de morale. C'est même pas une question
de... Il y a la morale
de...
dans la production.
C'est pas une question de morale pour le coup. Oui, alors, mais ça, c'est l'introduction, c'est la préface, mais moi, en tout cas, mon avis sur cet ouvrage, c'est que il pointe surtout des injustices structurelles. Il est question d'économie. Il est question d'un système, le capitalisme du désastre, dont effectivement, vous l'avez rappelé, Raphaël, Naomi Klein expliquait très bien, déjà en 2007, dans sa stratégie du choc, comment finalement ce capitalisme néolibéral théorisé par Milton Friedman et l'école de Chicago utilise des situations de crise où les populations sont plongées dans le désarroi pour étendre son emprise. Ces situations de crise, ces chocs, ça peut être un coup d'État. Naomi Klein évoquait par exemple le Chili de Pinochet en 73 dans la stratégie du choc, entre autres exemples. Mais là, en l'occurrence, dans ce choc des utopies, il est question d'une catastrophe qui paraît a priori une catastrophe naturelle, météorologique, mais qui en fait, et c'est ça tout l'intérêt du livre, a révélé une multitude de dysfonctionnements et d'injustices qui mettent en cause le système capitaliste avec ses logiques d'exploitation, de domination, de prédation des ressources par et pour une minorité. Ce marasme qu'a subi Porto Rico après le passage de l'ouragan Maria, il est dû à quoi ? Il est dû à 130 ans de relations coloniales avec les États-Unis qui effectivement se moquent totalement de l'intérêt de la population locale et ne voient Porto Rico que comme un lieu de villégiature pour citoyens américains aisés, comme un paradis fiscal, ce que effectivement est aujourd'hui cet archipel, ou alors effectivement comme le porteur d'une nouvelle soi-disant utopie qui en fait est un cauchemar pour les populations locales et qui repose sur effectivement des taux d'imposition très bas qui ne permettent pas de financer les infrastructures collectives et qui ne permettent pas aux populations de sortir de leur situation.
J'ajoute juste, c'est aussi vu comme un lieu d'expérimentation, d'expérimentation de médicaments, d'expérimentation de théories, c'est abordé dans le livre, d'expérimentation, par exemple, de contrôle des populations. Il y a eu un mouvement de stérilisation des femmes à Porto Rico dans les années 60, l'utilisation, le test des médicaments qui ont été testés avec des doses très très élevées, beaucoup plus élevées que évidemment c'était supportable par les corps à Porto Rico, notamment je crois sur les pilules contraceptives. Enfin, voilà, donc ça a été aussi un lieu d'expérimentation à ce titre-là.
Il y a une logique effectivement néocoloniale et même coloniale, on peut dire, mais à cela s'ajoute aussi les plans d'austérité budgétaire ces dernières années, notamment depuis 2008 et la crise financière mondiale, c'est très bien pointé par Naomi Klein. Mais moi, il me semble quand même que le point fort de l'ouvrage, qu'on n'a pas encore suffisamment évoqué, c'est quand même l'auto-organisation d'une partie des Portoricains pour pallier à ces situations de pénurie largement organisées. En fait, par son reportage dans des fermes biologiques communautaires, notamment, Naomi Klein nous montre que effectivement il y a des idées sur place et surtout des pratiques de résistance qui permettent de s'en sortir et surtout d'impulser un autre modèle de société dans ce contexte qui pourtant est un contexte de crise. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que cette approche, finalement, elle conduit à disputer aux tenants du capitalisme, du néolibéralisme, la notion de réalité et de réalisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des privatisations sont imposées partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a des coupes budgétaires, à chaque fois qu'il y a des plans d'ajustement structurel, c'est toujours au nom du réalisme. On n'aurait pas d'autre choix. Hein. Il n'y a pas d'alternative. La fameuse phrase
There is no alternative.
Bon, mais là, on voit concrètement qu'au contraire, le réalisme est du côté des populations.
Oui, mais justement, c'est pour ça que ça me dérange qu'on parle de choc des utopies, parce que d'un côté, il y a une utopie, et de l'autre, ce n'est pas une utopie. C'est-à-dire que le contre-modèle communautaire, local, les mini-réseaux d'électricité, l'agriculture biologique, l'organisation des écoles publiques, etc., ce n'est pas une utopie, justement. C'est le contraire. L'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas. Eh bien, ce que nous présente Naomi Klein, les initiatives locales, ce sont justement des lieux qui existent. Contre, justement, l'utopie, elle est du côté des libertariens qui veulent, en effet, créer ces espèces d'îlots en dehors de tout État pour préserver une forme d'égoïsme rationnel, etc. Elle parle évidemment des Seasteaders, c'est-à-dire cette espèce d'utopie qui consiste à vouloir construire des îles un peu de nulle part pour pouvoir se préserver de l'influence de l'État, ça c'est vraiment une utopie. Mais le contre-modèle n'est pas une utopie, c'est justement la réalité.
C'est peut-être une utopie, Eugénie Bastier, dans l'esprit de Naomi Klein, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu dans ce choc des utopies dont publié aux éditions Luxe, parce que cela suppose ce modèle que vous décrivez, des fermes du local, de la production d'électricité par les énergies non renouvelables, c'est dans un contexte politique, notamment avec ce Financial Oversight and Management Board qui dirige l'île et qui impose une politique, en tout cas qui dirige une politique, une gouvernance avec un programme néolibéral. Et donc, pour s'y opposer, eh ben, c'est peut-être ça l'utopie, c'est la difficulté et l'impossibilité de mettre en avant ces solutions, en tout cas à une large échelle, à l'échelle de toute l'île. Pour l'instant, c'est réduit à des tout petits lieux.
Oui, mais justement, c'est là où je pense que l'idée de stratégie du choc de Naomi Klein, l'idée que finalement les capitalistes profiteraient du désastre pour imposer davantage d'inégalités, elle est peut-être pas vraie historiquement, parce que historiquement, et c'est d'ailleurs ce qu'a montré un historien, Walter Schedel, dans son livre The Great Leveler, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui montre que justement, dans les situations de crise, de catastrophe et de violence, c'est là où les inégalités sont le plus réduites. Et notamment, c'est un peu un paradoxe, mais c'est toujours la guerre de masse, la révolution, l'effondrement d'un État, ou par exemple, il prend l'exemple des pandémies meurtrières, qui finalement, en occasionnant un choc dans la société, permet de déconstruire les institutions et finalement aboutit paradoxalement à une réduction des inégalités. Il prend l'exemple, par exemple, classique de la peste noire en Europe, qui a provoqué un effondrement et la mort d'un tiers de la population européenne, mais qui en même temps, paradoxalement, a provoqué l'abolition du servage dans l'Europe. Et donc, il montre que finalement, les chocs et les catastrophes peuvent être aussi l'occasion d'une réduction des inégalités. Et donc, la lecture un peu manichéenne en disant finalement c'est les capitalistes qui profitent du désastre, eh bien, il y a aussi une progression de l'égalité à l'occasion du désastre, parce que le désastre finalement remet à zéro le système.
Même s'il y a une spécificité aujourd'hui à la fois de notre situation historique et de la question écologique, on avait parlé ici du livre de Bruno Latour, Où atterrir, où il montrait comment il y a une volonté aujourd'hui d'une certaine partie de la population la plus riche de faire sécession avec le reste, et c'est peut-être ça aussi qu'essaye de montrer Naomi Klein dans ce livre, Le choc des utopies, c'est à quel point ce qu'on voit, et vous l'avez dit Laurent Hêtre, ce qu'on considère comme une catastrophe naturelle en quelque sorte, n'est pas qu'une catastrophe naturelle. C'est aussi une catastrophe qui s'appuie sur une histoire, une économie, une conception de la société. Et donc, on ne peut pas penser l'urgence climatique en dehors de l'urgence sociale.
Effectivement, mais là, de toute façon, en l'occurrence sur Porto Rico, là, on voit pas du tout se profiler de réduction des inégalités, ou alors, ce sera apparemment le fait de ces mouvements de Porto-Ricains auto-organisés, parce que ce que montre Naomi Klein, elle parle notamment d'une conférence d'investisseurs qui viennent donc avec leur projet utopique, mais bon, une utopie normalement est censé faire un peu rêver, et là en l'occurrence c'est simplement quelque chose qui vise à accroître encore davantage la logique de paradis fiscal, qui donc ne va pas du tout permettre de renforcer les structures collectives sur l'île, de développer les biens publics, ça va être tout le contraire. Donc là la question des inégalités, effectivement elle est brûlante, mais enfin, en tout cas, si on s'en tient à cet ouvrage sur Porto Rico, moi, je trouve que l'exemple du capitalisme du désastre est assez frappant, assez marquant. Là, le projet porté par les portopistes, comme elles les appellent, c'est quoi? C'est de faire de Porto Rico un peu la plaque tournante du marché des crypto-monnaies, du Bitcoin. Bon, c'est pas quelque chose qui porte des valeurs de redistribution et de partage, à ma connaissance.
Oui, d'ailleurs, elle montre très bien, d'ailleurs, elle rappelle que le marché des crypto-monnaies est écologiquement dévastateur, puisque la consommation d'électricité pour miner le minage de ces crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, est absolument effarante. Ce ne serait pas pour fabriquer les crypto-monnaies sur l'île, mais ce serait pour mettre les investissements en dehors du fisc. Et elle montre très bien le désastre écologique aussi que produisent ces nouvelles formes de capitalisme.
Juste un mot quand même sur le parallèle qu'on peut faire, parce qu'on pourrait à nous entendre penser que finalement ça concerne les Américains, ça concerne Porto Rico, c'est loin. Il y a notamment dans cette préface de Jade Lingard un parallèle qui est tiré avec la situation de la France, et notamment dans une certaine forme de relation coloniale aux Antilles, et qui parle, Jade Lingard, du scandale du chlordécone, du scandale des sargasses, donc ces algues qui empoisonnent la vie des îles des Antilles. Laurent Hêtre, là encore, on voit que c'est une sorte de chaîne, c'est-à-dire relations historiques coloniales, situation évidemment la question de l'intérêt et d'une situation d'un capitalisme de prédation, d'un système de plantation. Voilà, c'est le terme que je cherchais, et une catastrophe écologique.
Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est que il propose, il montre, il s'achève même sur un schéma, on peut dire, qui oppose finalement la souveraineté populaire, donc démocratique, la souveraineté de la majorité, à la sécession de quelques-uns. Et ça, ce schéma, effectivement, est valable, je pense, en de nombreux lieux aujourd'hui.
Oui, mais il faut quand même aussi rappeler qu'on parle de souveraineté populaire, mais les Portoricains, dans leur majorité, veulent être attachés aux États-Unis. Selon plusieurs consultations récentes. Donc ça veut dire quand même...
Il y a eu beaucoup d'abstention à la dernière consultation.
Oui, mais il y en a eu une autre en 2012 où 65% des Portoricains, il y a eu une plus forte participation, sont pour leur attachement, devenir un État américain. Oui. Donc ça veut dire qu'eux aussi veulent rejoindre la grande démocratie capitaliste que sont les États-Unis.
Oui, j'allais dire, c'est aussi parce
qu'ils veulent surtout les droits.
Voilà, ils veulent les droits.
L'égalité,
ils sont aujourd'hui citoyens américains sans avoir le droit de vote. Il y a peut-être ça qui joue aussi. Mais les personnes ici n'est vraiment spécialiste de la situation de Porto Rico. Donc je vous propose plutôt de lire le livre de Naomi Klein, Le choc des utopies Porto Rico contre les capitalistes du désastre, c'est aux éditions Luxe.
L'instant critique.
L'instant critique, ce sont vos conseils à l'un et à l'autre pour nos auditeurs, conseils culturels, de lecture, ou peut-être de visite, je sais pas, d'autre chose. Eugénie Bastier, je vois que vous êtes venue avec une petite revue de philosophie et de littérature.
Oui, c'est une revue qui s'appelle Philite pour philosophie et littérature, qui est publiée aux éditions du Rocher et qui publie son huitième numéro consacré à l'enfance dans la littérature. Et le rédacteur en chef Mathieu Giroux consacre un éditorial très juste sur le dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine.
Qui n'est pas pour les enfants. Hein.
Voilà, justement, qui n'est pas du tout pour les enfants, mais qui aborde le sujet de l'enfance, notamment lors de deux scènes où le personnage de Florent Claude révèle la radicalité de son nihilisme en s'attaquant à l'enfance. Il s'attaque à l'enfance en ne dénonçant pas un pédophile allemand et en ayant l'intention de tuer l'enfant de son ancien amour. Donc deux scènes très très violentes. Et Mathieu Giroux dit vraiment, Houellebecq fait un saut qualificatif dans le nihilisme. C'est pas le nihilisme à la Dostoïevski où finalement c'est les nihilistes qui veulent devenir des dieux, mais des nihilistes qui s'ignorent chez Houellebecq, des nihilistes qui sont sans volonté de subversion, simplement indifférents au bien et au mal, et à travers cette question de l'enfance qui a un angle original pour aborder Houellebecq. Voilà, c'est un très bel éditorial et il y a aussi dans cette revue des très bons articles moins scabreux sur l'enfance chez Bernanos, Marcel Pagnol, Marcel Proust et Jules Verne.
Voilà, on a commencé avec Houellebecq hein, puisque je le rappelle, c'était un peu la question d'Axel Honneth sur le livre d'Eva Illouz et ses marchandises émotionnelles. Est-ce que c'est parce qu'on est aujourd'hui, on vit dans un roman de Michel Houellebecq. Vous nous invitez à lire cette revue, Eugénie Bastier, Philite, revue de philosophie et de littérature, donc c'est aux éditions du Rocher, qui parle de l'enfance retrouvée. Un conseil également, Laurent Hêtre, peut-être pour nos auditeurs?
Oui, moi j'ai envie de vous parler d'un documentaire signé David Dufresne. Alors David Dufresne qui a reçu tout récemment le grand prix du jury des Assises du journalisme de Tours, suite à son travail de recensement des violences policières dans le mouvement des Gilets jaunes.
Mais à la place Beauvau, oui.
Voilà, mais là, rien à voir en l'occurrence avec notre brûlante actualité sociale, puisque il s'agit d'un documentaire sur Pigalle, le Pigalle d'antan, Pigalle de la seconde moitié du siècle dernier, et surtout des années 70-80. David Dufresne a 18 ans lorsqu'il arrive à Pigalle au milieu des années 80. Il est attiré notamment par un club de rock mythique, le New Moon, auquel il a par ailleurs consacré récemment un ouvrage, New Moon Café de Nuit Joyeux. En tout cas, cette immersion dans l'histoire de ce coin sulfureux de Paris est faite avec une nostalgie assumée. C'est la nostalgie d'un Pigalle où les artistes, Piaf par exemple, côtoyaient plus ou moins la fine fleur de la pègre. On est plongé dans une ambiance en fait à la Ripoux, entre flics, voyous et prostituées, et surtout il est question d'une époque dont les dernières traces disparaissent peu à peu aujourd'hui au fil de la gentrification galopante qui touche aussi d'autres quartiers parisiens, et effectivement avec des rues qui perdent un peu de leur âme à force de céder du terrain aux enseignes bio ou aux bars à cocktails sans alcool. Voilà, donc pour terminer, c'est un documentaire qui s'appelle Le Pigalle, une histoire populaire de Paris, et c'est à voir mercredi sur Arte à 22h55.
Catherine Deney va le regarder tout de suite, elle connaît bien le New Moon. Merci à tous les deux, Jenny Bastier et Laurent Hed, d'avoir participé à cette émission. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission donc, Catherine Deney à la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar à la prise de son, Pierrick Charles. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la télécharger, vous abonner au podcast sur la page d'Avis Critique sur franceculture.fr. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.